Bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste plurielle et slow, et aujourd'hui j'ai envie de revenir sur l'opération MBDR, ou manger, bouger, dormir, ralentir, pour vous parler un petit peu de mise en place d'habitudes durables et des expérimentations que j'ai faites ces derniers mois. Pourquoi j'ai envie de parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est le printemps. Et depuis que j'ai 12 ans, c'est un moment de bonne résolution, entre gros guillemets, et de prise d'habitudes saines, donc ces fameuses habitudes manger, bouger, dormir, ralentir. Et alors en fonction de l'époque et en fonction de mon état d'esprit, ça pouvait être des habitudes de régime alimentaire, de sport, de sommeil, d'heures de lever le matin, de routine matinale, de choses comme ça. Avec, pendant des années, je dirais même des décennies, l'objectif final de perdre du poids, d'être en meilleure santé, ce genre de choses. Peut-être parce que la fin d'hiver appelle à dévoiler davantage son corps sous des vêtements plus légers, peut-être aussi parce que les magazines à l'époque, et aujourd'hui c'est plutôt les vidéos YouTube, les podcasts, les choses comme ça, tendent à aborder ce sujet à l'arrivée du printemps. Par exemple en ce moment, il y a une pub dans le métro pour une salle de sport qui dit que cette année le printemps n'est pas annulé, sous-entendu qu'au printemps on sort, et il est temps de faire du sport pour se remettre en forme après l'hiver. Du coup, avec tous ces rappels extérieurs, je reporte mon attention chaque année, invariablement, au printemps, sur ce que j'ai appelé dans ce podcast l'opération manger, bouger, dormir, ralentir, même depuis bien longtemps avant que je l'appelle comme ça, hein, puisque c'est depuis le printemps de mes 12 ans, quoi. Donc on reparlera un jour du scandale que c'est de vivre dans une société qui pousse une gamine de 12 ans à faire du vélo d'appartement et à vouloir maigrir, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui d'implémenter des habitudes durables, et plus précisément, de deux erreurs fondamentales que j'ai identifiées dans mon propre comportement ces 20 dernières années, en vous expliquant pourquoi, chaque année, je prends invariablement des résolutions similaires à l'année précédente, et pourquoi, invariablement, l'année suivante, je reprends la même résolution, je me retrouve à la case départ à nouveau, parce que l'habitude n'a pas duré. Alors les choses ont changé ces dernières années, notamment parce que j'ai déconstruit mon imaginaire intérieur autour de la culture du régime et autour du pourquoi je me lance dans cette opération MBDR. Et ça, on en reparlera si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite un épisode à part entière. Mais en attendant, avec toutes ces remises en question, etc., j'ai commencé à me renseigner sur les habitudes et à prendre du recul sur ma façon de faire et sur ce qui ne fonctionnait pas jusque-là. J'ai commencé en 2020 à implémenter certaines habitudes qui en 2022 sont toujours là, à ma grande fierté. Et je continue à expérimenter petit à petit, mais en attendant, je vais partager avec vous ce que j'ai compris en analysant pourquoi ces habitudes-là sont restées alors que ça faisait plus de 20 ans que les habitudes à chaque fois elles repartaient au bout de quelques semaines. Donc ces deux erreurs fondamentales que je veux partager avec vous, bon, qui s'appliquent à mon cas, peut-être que ce ne sera pas exactement quelque chose qui s'appliquera à votre cas, mais peut-être que ça peut apporter du grain au moulin de votre propre réflexion autour de vos habitudes quotidiennes, que ce soit en termes de santé ou n'importe quelle autre habitude quotidienne. Là, je parle de santé parce que ce sont mes habitudes du moment, mais je pense que ça s'applique à n'importe quelle habitude. La première erreur, c'est de vouloir tout changer d'un coup et m'imposer un style de vie pour lequel je n'ai pas encore les compétences. Vous savez, c'est cette idée classique de « Allez, lundi, je mange plus que des légumes, je me lève à 5h du matin, je fais du sport 6 jours par semaine et je mange plus jamais d'apéro avec du fromage. » Alors que dans mon style de vie actuel, mes habitudes, mes capacités actuelles, je me lève plutôt vers 8h, j'ai du mal à faire du sport plus d'une fois par semaine, je sais pas tellement comment cuisiner des légumes et ça fait 20 ans que je termine mes journées par une assiette de fromage devant la télé pour me récompenser d'une longue journée d'effort. C'est un peu comme si dans un jeu de rôle, pour celles et ceux qui connaissent les jeux de rôle sur table ou les jeux de rôle en jeu vidéo, c'est comme si j'étais une aventurière de niveau 1, avec mon chandail en coton et mon épée en bois, et que je décidais que soudainement, j'allais enfiler une armure de plaque complète, utiliser une épée à deux mains et équiper un sort de feu légendaire. Je peux toujours essayer, mais j'aurai pas la musculature pour supporter l'armure de plaque, je ne saurai pas manier l'épée à deux mains, et je n'aurai pas l'énergie de lancer ma boule de feu. Parce que j'ai le niveau 1 et pas le niveau 50. Et là, c'est pareil. Quand on se dit que d'un coup, lundi, on va faire toutes ces choses qui correspondent au style de vie sain qu'on souhaite cultiver mais qu'on ne fait pas aujourd'hui, et ben en fait, on essaye d'endosser un style de vie de niveau 50 alors qu'on n'a que le niveau 1. On n'a pas encore les compétences pour ça. Par exemple, je n'ai pas encore implémenté dans mon agenda les habitudes sportives qui me permettraient de faire du sport 6 fois par semaine. Je dois expérimenter, voir à quel moment de la journée j'ai le plus d'énergie pour me dépenser, expérimenter comment glisser cette activité dans mon agenda actuel. Et ça nécessite du temps, ça nécessite de la pratique et de l'expérimentation, et de la connaissance de soi quelque part. Et c'est à travers cette pratique et cette expérimentation que j'acquiers la connaissance de moi et de quels sont mes sports préférés, à quel moment de la journée je vais être le plus à même de faire du sport, etc. Sans compter que je n'ai probablement pas la forme physique actuellement pour endurer 6 séances de sport par semaine. C'est quelque chose que peut-être j'aurai les compétences dans quelques mois, mais aujourd'hui je ne suis pas assez en forme pour pouvoir faire ça. Donc en fait, c'est tout comme l'aventurière de niveau 1 qui doit commencer par équiper une armure en cuir avant de passer à l'armure de plaque, tout comme elle va devoir se battre avec une dague légère avant de passer à l'épée à deux mains, et elle va passer au niveau 2, au niveau 3, au niveau 10, petit à petit, avant d'atteindre le niveau 50. Et bien c'est pareil pour moi. J'ai besoin de commencer par peut-être faire du sport une fois par semaine, puis deux. D'abord peut-être que 10 minutes, puis 15, puis 20. Peut-être qu'il va falloir que je teste différentes activités sportives, différentes heures de la journée, et trouver petit à petit la routine sportive qui me convient. Et c'est la même chose pour la nourriture, pour la partie manger d'MBDR. En ce moment, mon objectif alimentaire, c'est plus de légumes, moins de laitage. J'ai envie de rééquilibrer mon assiette pour ma santé, pour la diversité de la nutrition, pour mieux nourrir mon corps de tous les nutriments dont il a besoin. Mais à ce jour, je dois vous avouer que je ne suis pas du tout adepte de la cuisine de légumes. C'est-à-dire qu'en général, j'ai tendance soit à acheter des soupes Picard toutes prêtes, ou alors, à la limite, je sais découper des carottes pour les mettre dans une salade composée, faire quelques recettes assez simples que j'ai vu faire ma maman depuis des années, comme la ratatouille par exemple. Et puis c'est tout. Du coup, comment puis-je attendre de moi-même de cuisiner des super plats de légumes à la fois sains et goûtus, avec de bonnes herbes et épices à chaque repas, alors même que je sais à peine comment cuire un chou-fleur sans qu'il soit amer, voyez? Sans compter que je dois aussi apprendre à comment bien conserver les légumes pour les faire durer plus longtemps, comprendre quel genre de plat se congèle bien, mais aussi quels sont mes goûts personnels. Quelles associations de légumes et d'épices ou d'herbes j'aime manger, quel type de cuisson je préfère, quelles associations de légumes je préfère. Je ne sais pas non plus comment inclure un temps de préparation des menus et de cuisine dans mon emploi du temps parce que pour l'instant je ne le fais pas. Donc voyez, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Niveau 1, niveau 2, niveau 4, niveau 6, pas directement niveau 50. Dans l'état actuel, ne serait-ce que de trouver une recette de légumes à tester, prendre le temps de la suivre à la lettre, essayer de comprendre comment ça marche, aller acheter les épices ou les ingrédients qui me manquent. Vu que tout est nouveau et justement pas encore habituel, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie mentale. Et honnêtement, je ne suis pas en capacité de faire ça 14 fois par semaine pour chacun des repas. Je dois apprendre petit à petit. Et en fait, c'est là que réside, je pense, la source de cette erreur fondamentale que j'ai commise pendant tant d'années. C'est que je ne comprenais pas la nature d'une habitude. Une habitude, c'est pas une action qu'on se force à ajouter dans notre quotidien par notre volonté seule. Si on se repose sur notre volonté, il se passe exactement ce qui s'est passé pour moi pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire que je vais mettre un plan en place. Je vais le suivre pendant une semaine, un mois, tant que je suis motivée et que j'y consacre la majorité de mon énergie mentale et de ma volonté, parce que tout le monde parle de ça autour de moi au printemps. Mais ensuite, au fil des semaines, la vie continue. J'ai une situation de boulot qui requiert mon énergie mentale, on prépare les vacances d'été, j'ai un dégât des eaux à gérer chez moi. Mon attention, mon énergie partent ailleurs, et les gens finissent par arrêter de parler de bonnes habitudes autour de moi, et mes habitudes MBDR se délitent naturellement, parce que je n'y pense plus. Parce que je n'ai plus d'énergie mentale et de volonté à y consacrer au quotidien, je suis partie sur autre chose. Et en fait, une habitude, c'est pas ça. Justement, c'est ça la magie des habitudes, hein. C'est qu'une habitude ou une routine, c'est un automatisme. Ça nécessite pas ou très peu d'attention, de volonté ou de charge mentale. Parce que justement, c'est un comportement habituel et on le fait de manière quasi automatique. Moi, j'ai vu comment, par exemple, ma maman s'occupe de ses légumes. Elle a un régime alimentaire avec beaucoup plus de légumes que moi dans son assiette. Elle a un jardin qui donne de bons légumes, de bonnes herbes aromatiques, etc. Et croyez-moi, trouver des recettes, des idées de recettes à base de légumes et les cuisiner ne lui prend pas du tout la même charge mentale qu'à moi. Parce que je suis une aventurière de niveau 1 et elle est une maîtresse cuisinière spécialisée dans la classe légumes de saison de niveau 40. Parce qu'elle entretient ses habitudes depuis des décennies. Cuisiner des légumes lui est venu habituel, quasi automatique. Par exemple, elle voit une courgette, et je peux vous dire qu'en été des courgettes, elle envoie des kilos. Elle voit une courgette et elle a une dizaine de recettes minimum qui lui arrivent en tête, dont la plupart qu'elle a tellement cuisiné au fil des années qu'elle n'a même pas besoin du livre de recettes pour la reproduire. Elle la connaît par cœur. Donc vous imaginez bien que c'est pas du tout la même charge mentale quand vous avez une courgette et que vous vous dites automatiquement « Ah bah tiens, je vais faire ça, il me faut ça, ça, ça comme ingrédient, je connais la recette par cœur, je vais aller le faire vite fait, puis ça prend une demi-heure », que quand vous êtes face à la courgette, que vous n'avez jamais cuisiné de courgette de votre vie, qu'il faut chercher sur Google « recettes de courgettes », que vous ne savez pas encore lesquelles vous aimez, vous n'aimez pas, qu'il faut faire une liste d'ingrédients, aller les acheter au magasin, puis revenir, comprendre comment on épluche une courgette. Alors j'exagère un petit peu, mais vous voyez, c'est ça l'idée. C'est que quand ça devient habituel, quand ça devient automatique, bah c'est beaucoup plus facile en fait. Et c'est ça une habitude. C'est quelque chose qu'on a répété tellement de fois que c'est devenu le chemin le plus simple pour notre cerveau. Un chemin qui ne dépense quasiment pas d'énergie ni d'attention parce que c'est devenu automatique. Je me souviens d'avoir discuté avec un directeur de studio de jeux vidéo suédois dans un de mes boulots précédents lors d'un dîner de travail et il m'expliquait qu'il courait 10 km tous les matins, sans faute, depuis des années. Pour lui, se lever naturellement vers 6h du matin, enfiler ses affaires de sport et aller faire son circuit de course quotidien, c'était devenu une habitude. Aussi automatique que de se brosser les dents. Ce n'est pas la volonté qui le fait se lever pour courir, ce sont des réflexes, des automatismes. Il n'a pas besoin de se convaincre de le faire. C'est un maître sportif spécialisé dans la classe course à pied de niveau 36. Et vous voyez, créer une habitude durable, ça veut dire créer cet automatisme-là. Et non pas se forcer à répéter quelque chose chaque jour à la simple force de la volonté. Alors, il existe plein de ressources qui expliquent comment créer cet automatisme au fil du temps, notamment en utilisant le principe des trois phases de l'habitude qui sont le déclencheur, qui déclenche la mise en route de l'habitude, l'action, en quoi consiste l'habitude, et la récompense, ce qui est cool dans l'habitude, qui va donner envie au cerveau de la garder et de la recommencer plus tard. Donc ça, on pourra éventuellement reparler en détail dans une autre émission à propos des habitudes si ça vous intéresse. En attendant, vous pouvez aller lire. Alors, il y a le livre qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes » de Charles Duhigg. Il y a le livre « L'effet cumulé » de Darren Hardy. Ou alors, mon préféré sur les habitudes, « Ces habitudes qui font grandir notre talent » par Fumio Sasaki. Déjà, si vous lisez ces livres-là, ça va vous donner plein de pistes de réflexion sur comment rendre une habitude automatique. Ce que j'ai retenu de cette première erreur, celle de vouloir tout changer d'un coup plutôt que d'implémenter les habitudes une par une, à mon rythme, en prenant compte de mon état actuel de compétences et de capacités, c'est la chose suivante. Pour changer de style de vie, bien sûr qu'on peut avoir une vision à long terme, et c'est même très très conseillé de savoir où est-ce qu'on veut aller, vous voyez, l'aspiration de cuisiner des légumes comme ma maman, ou de courir tous les matins comme le directeur du studio suédois, c'est important de cultiver ce genre de vision, et surtout de se rappeler pourquoi on veut atteindre ce style de vie, pourquoi cette vision-là nous est importante, pourquoi on a envie de monter au niveau 50. Mais pour atteindre un jour ce style de vie auquel j'aspire, je dois commencer petit. Apprendre au fil de l'eau à me connaître, à voir ce qui colle avec mes contraintes quotidiennes, ce qui est à mon goût. Et automatiser de petites habitudes une à une, pas à pas, mais qui au fil du temps vont se cumuler et améliorer mon style de vie global. C'est à ça que j'aspire aujourd'hui. Je vais passer du niveau 1 au niveau 2, puis 5, puis 10. Au lieu de chercher à atteindre comme par magie le niveau 50 dès lundi prochain. Et c'est ainsi que, au printemps de l'année suivante, au lieu de recommencer de la case départ, je peux constater, par exemple, que j'ai gardé l'habitude de courir 2 fois par semaine, de commencer mes repas par une salade ou encore de marcher 8000 pas par jour. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. La deuxième erreur que j'ai commise pendant des années, c'est d'espérer que les habitudes s'automatisent par magie au lieu de mettre des systèmes en place. C'est-à-dire que par exemple, Mettons que je vais décider de cuisiner des légumes tous les jours. C'est dimanche après-midi, je viens d'écrire dans mon journal toutes les raisons pour lesquelles j'ai envie de reprendre ma santé en main, et je me dis, allez, dès demain, je cuisine des légumes tous les jours. Et je m'arrête là. Je me dis que magiquement, le lendemain matin, je vais savoir par quel bout prendre les choses pour trouver des recettes de légumes, pour aller les acheter, les cuisiner, et que ça va devenir naturel et quotidien comme par magie. Qu'il suffit que je décide de vouloir cuisiner des légumes tous les jours pour que soudain je sois... J'ai tout ce qu'il faut pour cuisiner les légumes tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que cette erreur est également liée à cette mauvaise conception des habitudes comme quelque chose qui se fait à la simple volonté. On pense qu'il suffit de vouloir le faire pour que ça se fasse tout seul. Mais c'est aussi une mauvaise conception de comment fonctionne notre charge mentale. Prendre une décision, ça coûte beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette fameuse légende des cols roulés noirs de Steve Jobs, le fondateur et ancien PDG d'Apple, et on disait alors qu'il s'habillait tous les jours pareil pour éviter de perdre de l'énergie à décider quoi porter chaque matin. Alors, je ne sais pas si cette légende est vraie, mais ce qui est vrai, c'est que chaque décision, petite ou grande, nous coûte un petit peu d'énergie à chaque fois. À chaque fois qu'on fait un choix, ça nous coûte un petit peu d'énergie mentale. C'est pour ça que c'est souvent plus facile de manger un petit déjeuner sain, parce qu'on peut décider d'opter pour l'alternative saine en début de journée quand on a encore plein d'énergie, mais que le soir, on se jette sur le pain et le fromage en apéro parce qu'on est trop crevé pour décider autre chose. Et par « on », je veux dire « je ». C'est moi qui mange du fromage le soir. Voilà, donc choisir quelle couleur de t-shirt on va mettre le matin, ça coûte un peu d'énergie. Tout comme décider de quitter notre job coûte de l'énergie, en général beaucoup plus. C'est une charge mentale, en fait, d'explorer les options et de décider sur laquelle se porter. C'est ce dont Barry Schwartz parle avec beaucoup de clarté dans sa conférence TED qui s'appelle « Le paradoxe du choix », « The Paradox of Choice », qui est disponible avec des sous-titres français si ça vous intéresse. Et c'est aussi pour ça que la recherche montre, par exemple, que les juges sont plus durs dans leurs décisions juste avant le déjeuner de midi et en fin de journée parce que leur pouvoir de décision se fatigue. Du coup, si je décide de manger des légumes tous les jours et que j'en reste là, ça veut dire que tous les jours, avant chaque repas, je dois décider quels légumes je vais manger, quelles recettes je vais préparer, etc., etc. Et ça, ça prend une énergie folle. On mange, allez, 2-3 fois par jour, peut-être 4 si on se fait un petit goûter. Et ça veut dire que déjà 3-4 fois par jour, il faut décider sur le coup qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai dans le frigo, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Combien de temps ça va me prendre pour cuisiner? Est-ce que j'ai la flemme? Est-ce que j'ai pas la flemme? Ça prend la tête, quoi. Ça prend une énergie folle. Et c'est justement pour ça que les habitudes automatiques existent. Que le cerveau, en fait, est câblé pour mettre en place des automatismes. C'est pour préserver notre énergie. Le cerveau automatise les routines pour ne pas avoir à décider à nouveau chaque jour. On va se laver les dents à la fin de chaque repas parce que ça fait 35 ans qu'on le fait, 50 ans qu'on le fait, 20 ans qu'on le fait. Et ça va pas nous prendre une énergie folle de se dire « Est-ce que je me brosse les dents aujourd'hui? Est-ce que je prends la brosse à dents bleue? Est-ce que je prends la brosse à dents noire? Est-ce que je prends dentifrice à la menthe, dentifrice à la fraise ?» Non, on a mis en place un système, on a la brosse à dents, on a le dentifrice, on a le machin, c'est à côté du lavabo et c'est automatique. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour automatiser une habitude, pour la rendre... pour qu'on n'ait plus besoin de décider de la faire à chaque fois au quotidien, alors que par définition, ça va prendre de l'énergie, puisque quand on implémente une nouvelle habitude, eh ben, on n'a pas encore d'automatisme en place, on n'a pas encore de système en place, et il faut bien décider, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça, ce qui aide, c'est justement de mettre en place ce que j'appelle, ou moi qui ai décidé, mais ce qu'on appelle des systèmes. Avec des systèmes, en fait, on prend des décisions à l'avance, et on met en place les outils à l'avance pour que, lorsque le moment arrive, on n'ait pas besoin de décider parce qu'on a déjà tout préparé avant. Ça prend beaucoup moins d'énergie mentale parce que tout est prêt, on n'a plus besoin que de faire, on n'a plus besoin de décider. Et ça me fait un petit peu penser au concept de mise en place, qui est la préparation du plan de travail avant de cuisiner, qu'on apprend au chef cuisinier. C'est-à-dire qu'on va préparer tous les ingrédients, tous les ustensiles avant de commencer à cuisiner. On va les placer dans l'ordre. Donc déjà, ça permet de vérifier qu'on a bien tout ce qu'il faut. mais ça permet de mettre en place un système. C'est-à-dire qu'une fois que tout est mis en place, il ne reste plus qu'à cuisiner la recette en prenant les outils, les ingrédients un par un dans l'ordre dans lequel ils ont été disposés sur le plan de travail. Pendant la recette en elle-même, il n'y a plus aucune décision à prendre, il n'y a plus d'ingrédients à chercher, on peut entrer dans l'automatisme de la cuisine, dans la zone, dans le flow. C'est une pratique d'ailleurs, en réfléchissant à la mise en place, je me suis rendu compte, c'est une pratique que je pratique dans mes activités créatives. C'est-à-dire que je vais préparer les papiers, les palettes d'aquarelles, les gobelets d'eau, les pinceaux, les photos d'inspiration avant de commencer à peindre. Comme ça, une fois que je suis dans l'action de peindre, j'ai plus besoin de prendre décision, j'ai plus besoin de réfléchir. Tout est à ma disposition pour me mettre au travail. Alors, on pourra reparler de mise en place à un autre moment, mais là, l'idée générale que j'ai envie de transmettre, c'est que quand on met en place un système, on va consacrer de l'énergie pour justement imaginer ce système au moment de la mise en place, au départ. Mais une fois qu'on a utilisé cette énergie au départ, ce lancement, comme si on allumait un moteur diesel, quoi, quelque part, une fois que c'est fait, une fois que c'est en place, et bien c'est comme des rails qui nous permettent d'avancer dans nos habitudes de manière beaucoup plus simple. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'installer les rails avant et de mettre le wagon dessus et d'avancer que de devoir arrêter le train toutes les 2 secondes pour mettre les rails devant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, pour mes habitudes sportives, j'ai bloqué dans mon agenda les 2 midis où je vais courir dans la semaine. À l'avance, je décide en début de semaine quel moment dans la semaine je vais aller faire du sport. De manière à pas avoir de conflit d'agenda en termes de meeting, de choses comme ça, je m'assure que je suis marquée occupée dans l'agenda, comme ça on ne vient pas me foutre de meeting entre midi et deux, parce que les Polonais adorent mettre des meetings entre midi et deux, c'est insupportable. Et du coup, je décide à l'avance. Et puis en plus, j'ai un système par rapport aux lessives, qui fait que je peux laver mes affaires de sport le soir après ma course à pied. J'ai installé mon midi de course à pied le jour où le panier à linge sale commence à être plein et du coup je peux faire direct une lessive derrière. Et comme ça je suis sûre qu'il y a toujours une tenue de sport propre et sèche à disposition quand je vais courir. Je me suis également abonnée à un programme de sport à la maison qui s'appelle My Peak Challenge si ça vous intéresse et qui a fait tout le travail à ma place de décider quels exercices faire et dans quel ordre. J'ai acheté à l'avance quelques petits accessoires dont il y a besoin, type des élastiques de renforcement, des haltères. Ouais, je suis allée chez Decathlon, j'ai dépensé 50 euros, voilà. Et puis, ça me permet de pratiquer les exercices proposés par le programme. Et du coup, lorsque je déroule le tapis pour faire une séance de sport, je n'ai qu'à cliquer sur vidéo suivante de mon programme, écouter les instructions et faire ce qu'on me dit de faire. Donc, il n'y a aucune prise de décision, je n'ai qu'à suivre le programme qui a été mis en place par des coachs sportifs dont c'est le métier. Et ça, c'est un système qui me permet de faire du sport à la maison. J'ai pas besoin de revenir décider moi-même à chaque fois quel exercice faire. J'ai pas besoin d'aller chercher des vidéos sur YouTube ou que sais-je d'autre. La ressource est à disposition. En fait, j'ai eu besoin d'énergie initialement pour me renseigner à propos de My Peak Challenge, pour m'abonner au service, pour faire la liste des haltères et des machins comme ça à aller acheter chez Decathlon. Mais une fois que cette énergie initiale a été dépensée pendant 2-3 semaines, j'avais mon système en place et j'ai plus qu'à mettre séance de sport dans mon agenda et tout le reste, c'est prêt, c'est décidé pour moi, j'ai plus besoin que de suivre les rails, voyez ? Pour les habitudes alimentaires, du coup, j'ai opté pour la même manière de faire et du coup, j'ai suivi un accompagnement cet automne auprès d'Adeline qui tenait le blog qui s'appelle Noisette et Basilic et qui maintenant tient une affaire de gestion des finances personnelles qui s'appelle Mon Budget Positif, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et à l'époque, j'avais fait appel à ses services pour créer un système d'organisation de mes repas. Donc, on a créé ensemble une base de données Notion. On a rassemblé du coup toutes mes recettes au même endroit, ou en tout cas on a mis en place un système pour qu'à chaque fois que je fasse une nouvelle recette qui me plaît, je vienne la rajouter dans la base de données pour qu'elle soit beaucoup plus facile à trouver plus tard, plutôt que d'aller farfouiller dans mes recettes, dans mes livres de cuisine à chaque fois. On a aussi mis en place des étiquettes pour retrouver les ingrédients liés aux recettes, donc par exemple quand j'ai une courgette sous le nez, vu que je ne suis pas une maître cuisinière de niveau 40 comme ma mère, quand j'ai une courgette sous le nez, je peux aller dans ma base de données chercher la catégorie courgette et j'ai automatiquement une liste de recettes que j'ai fait l'été dernier et ça me donne des idées, voilà, c'est un système qui me permet de récupérer des idées plus facilement. Et on a même mis en place un système de préparation des menus ensemble. Donc je me cale un moment le samedi matin pour décider quelle recette je vais faire dans la semaine. J'ai du coup ma liste de légumes à aller acheter au marché. Et puis après, le dimanche et le mercredi, je prépare à l'avance quelques plats de légumes. C'est en cours d'implémentation, mais en tout cas, le système en lui-même, j'ai pris l'énergie de le mettre en place. Et du coup, maintenant que j'ai une structure pour m'aider à cuisiner des légumes, semaine après semaine, même si mon attention quitte le focus de mes habitudes de santé, ou même si je pars à un moment, là je suis partie en week-end de Pâques, du coup ça a un petit peu tout, ça m'a distraite de tous ces trucs-là, bah je sais que je vais pouvoir revenir sur les rails de mon système que j'ai mis en place, sans que ça parte dans tous les sens ou sans que j'oublie, parce que j'ai mon système qui est là, j'ai mon truc d'agenda récurrent qui dit samedi matin choisir les recettes et acheter les légumes, j'ai toujours ma base de données Notion avec mes recettes, c'est là, ça m'attend, les rails sont prêts, vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est aussi pour ça finalement que je me retrouvais à chaque printemps à la case départ, à chercher à réintégrer les mêmes habitudes encore et encore année après année, c'est parce que mon attention, notre attention d'être humain est limitée. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un élément déclencheur, que ce soit une pub que j'ai vue à la télé, une vidéo YouTube qui parle d'alimentation, je sais pas quoi, un pantalon que je me rends compte qui est devenu trop petit, voilà. Il va y avoir un élément déclencheur qui va m'amener à porter mon attention sur mes habitudes de santé. Et où là, du coup, je vais être hyper motivée, etc. pendant quelques temps. Mais si j'ai pas de système qui me permet de faire durer ces habitudes, au bout de quelques semaines, mon attention et mon énergie se reportent sur autre chose. Et je finis par oublier mes bonnes résolutions. Et je sais pas pour vous, mais moi personnellement, chaque année, quand mes bonnes habitudes se délitent, c'est pas parce que je décide consciemment de laisser tomber. Je me dis pas, bon allez, j'arrête de manger des légumes. C'est pas du tout ça. C'est plutôt parce que j'oublie de continuer, en fait. Parce que mon attention se porte sur autre chose avant que l'habitude ne soit devenue automatique. Et l'avantage des systèmes, c'est que je peux profiter du moment où mon attention se focalise sur le sujet pour mettre mon énergie sur la mise en place du système, du processus, de la routine, d'aller chercher les informations, d'acheter ce qui manque, de mettre les choses dans l'agenda, etc., etc. Et une fois l'énergie de la mise en place dépensée, je peux me contenter de suivre le système que j'ai implémenté. Et du coup, si mon attention vient se focaliser sur autre chose, le système prend le relais et je peux continuer ma bonne habitude suffisamment longtemps pour qu'elle devienne automatique. Et que peu à peu, je gagne en niveau et en compétences pour aller vers le style de vie auquel j'aspire. Ensuite, bien sûr, que je prends le temps de remettre en cause les systèmes régulièrement, c'est-à-dire qu'on change dans notre vie, on grandit, on vieillit, nos circonstances de vie changent, on peut déménager, on peut changer de job, on peut, voilà, plein de choses qui font que le système qu'on a mis en place à une époque ne marche plus. Et donc du coup, je les remets en cause régulièrement pour les adapter à mon style de vie, à mes évolutions de compétences, à mes expérimentations, à mesure que je me connais de mieux en mieux, etc. Et ça, je peux le faire de manière cyclique. Utiliser justement le fait que mon attention se porte à nouveau sur le sujet chaque année pour venir faire un petit audit de mes systèmes et puis voir comment j'ai avancé, voir comment mes contraintes de vie ont évolué et faire évoluer mon système en conséquence. Et du coup, là où c'est avantageux, c'est qu'au lieu de repartir de zéro chaque année, et ben chaque année j'ai pris un niveau ou deux, vous voyez. Chaque année je peux affiner mon système petit à petit, et mon style de vie va se rapprocher de plus en plus de mes aspirations d'année en année, au lieu de repartir de la case départ à chaque fois. Voilà donc les deux erreurs que j'ai commises pendant des années et qui ont empêché mes habitudes de devenir durables. Donc la première erreur, c'est de vouloir tout changer d'un coup au lieu d'y aller petit à petit. Et la deuxième erreur, ça a été de prendre de bonnes résolutions, mais sans créer de système pour m'aider à rendre ces habitudes concrètes et automatiques. Du coup, cette année, j'ai choisi des habitudes simples et adaptées à mes capacités actuelles pour passer du niveau, mettons, 4 au niveau 5, vous voyez. Donc par exemple, de manger une salade composée au début de chaque repas et de courir deux fois par semaine à midi. J'ai aussi décidé de prendre l'habitude de manger des petits déjeuners salés qui contiennent des légumes et des bons gras végétaux. Et cette année, j'ai donc décidé de mettre consciemment des systèmes en place. Le système de la préparation des menus dont je vous ai parlé, le programme My Peak Challenge pour le sport, assorti d'un espace chez moi où je peux dérouler mon tapis qui est à côté de mes haltères, où je peux poser mon ordinateur pour regarder la vidéo, etc., etc. Et vous, Quelles habitudes simples pourriez-vous mettre en place ces prochaines semaines? Quel système de prise de décision à l'avance pourrait vous aider à les automatiser? Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires ou des idées autour du sujet, vous pouvez les partager sous les notes de l'émission sur floriteller.com/BN175, où vous retrouverez aussi le script de cet épisode en PDF en téléchargement libre. Vous pouvez aussi me contacter via floriteller.com/contact. Et pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique un dimanche sur deux que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !